magazine des Nations Unies. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. On voici les principaux titres. Début des audiences, confirmation de charge dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda à la CPI. C'était lundi dernier à La Haye devant la Chambre préliminaire 2. Bosco Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité. Des faits qu'il aurait commis en Ituri entre juillet 2002 et décembre 2003. C'est l'actualité de la semaine du magazine. Festival Amani pour chanter la paix, un événement culturel qui regroupe depuis ce vendredi des artistes de tous les horizons à Goma. Il s'achève ce dimanche. Mais quel est l'intérêt de ce genre de manifestation culturelle dans un Nord Kivu marqué par des conflits armés? Le magazine des Nations Unies s'entretient justement avec le promoteur du Festival Amani dans cette édition. Enfin, le monde entier a célébré le jeudi 14 février la journée mondiale de la radio autour du thème « Égalité des genres et l'autonomisation des femmes ». Le représentant de l'UNESCO en RDC est notre invité et puis également, dans cette émission, un coup de projecteur sur le genre au sein de la radio Capi, une belle illustration qui sert aussi de cas d'école. À suivre dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Ouverture lundi dernier des audiences de confirmation de charge dans l'affaire Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Pour le procureur, l'enjeu de ces audiences d'une semaine consiste à démontrer qu'il détient un dossier suffisamment solide pour que le cas Bosco Ntaganda soit renvoyé en procès. Pour rappel, l'ancien milicien doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité. Des crimes qu'il aurait commis entre 2002 et 2003. Stéphanie Mopa, notre correspondante à La Haye, a assisté à la première séance. Elle nous fait le compte-rendu de cette première journée.
Invité à décliner son identité et sa profession, Bosco Ntaganda a rappelé dès l'ouverture de l'audience que depuis son transfèrement à la prison de la Cour le 22 mars dernier, il n'était plus un militaire. Pour le procureur, il est un commandant notoire qui, avec d'autres, a conduit une campagne de terreur visant des civils et des enfants. L'accusation assure que cette campagne de terreur visait à contrôler l'Ituri et purifier la région de tous ceux qui n'étaient pas détenus EMA. À la Cour, la procureure Fatou Bensouda a décrit les meurtres, les pillages commis sous les ordres de Bosco Ntaganda. Lui-même ne se serait pas contenté d'ordonner ses crimes, mais y aurait participé. Pour la défense, la thèse d'un conflit ethnique ne tient pas. Maître Desalliés en veut pour preuve le fait que le suspect n'est pas Emma, qu'il n'est pas originaire de l'Ituri mais du Rwanda, qu'il a grandi au Kivu et qu'il est Tutsi. Cette première audience a permis d'en savoir un peu plus sur la stratégie de la défense, qui rappelle que la région était occupée et que prendre les armes pour tenter de ramener la paix et la sécurité n'est pas un crime. Les audiences doivent se poursuivre toute la semaine, après quoi les juges entreront en délibéré dans les prochaines semaines et ils devront dire si Bosco Ntaganda doit ou non être renvoyé en procès. À La Haye, Stéphanie Mopa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La ville de Goma vibre depuis ce vendredi 14 février et ce pendant 3 jours au rythme d'un grand événement culturel. Il s'agit du festival Amani organisé en collaboration avec les volontaires des Nations Unies. Cette rencontre culturelle se veut être un élément fédérateur de paix et de réconciliation et un moyen de rapprochement entre les peuples. Éric Delamotte est le promoteur de ce festival. Il évoque l'intérêt, les enjeux ainsi que la qualité des artistes participant à ce grand événement culturel. Il répond aux questions de Jean-Pierre et Lali Coco. Suivez.
Éric Delamotte, bonjour.
Bonjour.
Il se tient depuis le 14 février le festival Amani à Goma, capitale du Nord Kivu. Vous êtes l'initiateur de cet événement culturel. Comment vous est venue l'idée d'organiser cet événement?
Le festival Amani a été un rêve depuis 2 ans. L'équipe jeune du foyer culturel de Goma qui voulait créer via la culture un grand rassemblement en faveur de la paix et de la réconciliation. Et donc c'est à cette époque qu'on a rêvé à cet événement énorme et c'est aujourd'hui un peu sa réalisation.
Mais l'événement aurait dû avoir lieu au mois de septembre dernier.
Il était prévu et planifié initialement pour fin août, début septembre, et il était prêt à être organisé à cette époque, mais le lundi précédent, la manifestation, nous avons dû le reporter parce que Goma était sous les bombes du M23, et donc l'événement ne pouvait pas se tenir dans une ambiance sécuritaire correcte.
Amani en français, c'est la paix. Pourquoi ce thème en ce moment où le Nord Kivu est encore le théâtre des conflits armés et des déplacés?
Parce que je pense que tout le monde rêve, et je vous parlais des jeunes, c'est un peu eux que je représente aujourd'hui, parce que c'est eux qui sont à la base de cet événement. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais connu la paix. Ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. Ils rêvent d'un changement, d'une situation différente dans laquelle les 20 millions d'habitants du Kivu pourraient vivre dans une situation de développement socio-économique qui nécessite la paix. Et donc c'est pour ça que nous organisons ce festival qui doit être le symbole de la paix et de la réconciliation.
Donc c'est un rêve et une aspiration de la jeunesse?
Absolument, je vous dis, l'organisateur, aujourd'hui je n'en suis que le promoteur, l'organisateur effectif sur le terrain, c'est le foyer culturel de Goma avec ces centaines de jeunes qui bénévolement se donnent pour que cet événement national, régional, international soit une réussite.
Éric Lamonte, véhiculer la paix pour la culture, croyez-vous que le message passe mieux que dissuader les groupes armés sur le terrain au Nord Kivu?
Je pense que le choix n'est pas blanc ou noir, un ou deux. Je pense que de multiples actions sont nécessaires pour faire survenir la paix dans la région. Et donc, nous organisons ici un événement culturel, apolitique, qui se veut rassembler des jeunes par-delà les frontières, différences religieuses, ethniques, et pour chanter la paix. Et donc, c'est un élément parmi d'autres qui peut aider à ce que la situation évolue positivement. Mais évidemment, sûrement pas le seul, et le festival en lui-même ne sera sûrement pas l'événement qui permettra de manière définitive d'établir la paix.
Ah, c'est bien. Et parlons de l'organisation proprement dite du festival. Quels sont les artistes choisis et sur la base de quels critères?
Trois différents types d'artistes vont prester durant ce week-end du 14, 15 et 16 février, c'est-à-dire dans deux jours exactement, au collège Mwanga à Goma. Des artistes internationaux dont le plus connu est Lukwa Kanza. Oui. Je l'ai hier, j'ai eu au téléphone, il est arrivé par Kigali, il prenait le vol ce matin sur Bukavu, il va rester deux jours, c'est sa ville de naissance. Vous savez que Lukwa est rwando-congolais. Il nous rejoint ici fin de semaine, c'est lui qui prestera en dernier lieu le dimanche pour l'apogée finale du festival. En dehors de lui, il y a le très connu évidemment Lexus Legal de Kinshasa, un rappeur qui aime la région, qui aime donner son temps et qui vient totalement bénévolement pour chanter la paix ici à Goma. Il sera accompagné aussi de Inos B, le petit jeune qui a gagné il y a deux ans le grand concours Vodacom national. Et alors nous avons des artistes qui viennent aussi de la région. Nous avons deux Rwandais, deux Burundais et quatre jeunes prometteurs de Goma qui ont été sélectionnés pendant les six derniers mois dans 150 groupes différents. Et le troisième type, ce sont des groupes traditionnels de danseurs qui viennent du Rwanda, du Burundi, de Bukavu, de Beni, de Masisi, enfin de toute la région.
Donc il y a des critères sur lesquels vous vous basez pour les recruter parce qu'il n'y a pas que eux en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Il y a des critères pour le choix?
Oui, de toute façon, un des critères initial et principal, c'est que ce festival, cet événement est organisé de manière totalement bénévole. Je vous parlais des centaines de jeunes qui sont tout autour de moi-même et de tous ceux qui organisent. Nous sommes là bénévolement, tout le monde travaille, donne de son temps pour faire de cet événement un événement qui va chanter la paix. Et donc les artistes aussi, et donc tous les artistes que je vous ai cités, eh bien ils vont venir ici chanter la paix, ils vont donner leur temps pour se retrouver tous ensemble, pour faire cet événement, une grande rencontre, et donc c'était un des critères. Au niveau des Congolais, les quatre qui vont se prester, ils ont été sélectionnés par le public.
Oui, Éric Delamonte, il s'agit là d'un événement culturel, mais qui demande aussi des moyens. Quelles sont vos sources de financement?
Écoutez, on est parti un peu dans ce rêve, sans certitude financière, et donc nous avons pris un risque important, mais et nous avons assez rapidement trouvé des partenaires, sponsors, qui aujourd'hui nous permettent de couvrir l'événement. Et les principaux sont Brasimba, Vodacom et la Rawbank, qui sont nos main sponsors. Ils sont tout autour d'eux, entourés d'autres sponsors qui nous aident également.
On peut avoir une idée précise sur le coût en termes chiffrés?
Mais absolument. Et notre objectif est d'être totalement transparent, parce que même s'il y avait du bénéfice, ce que j'ose espérer, mais ce n'est pas du tout encore certain, eh bien, il sera affecté à la construction de bâtiments pour le centre culturel de Goma qui en manque cruellement. Et aujourd'hui, le budget s'établit à plus ou moins 250 000 dollars.
Et au finish, quels résultats ou bénéfices attendez-vous de ces festivals?
Écoutez, je pense qu'il est difficile, il sera difficile de chiffrer les résultats de ce festival, mais l'objectif est vraiment de pouvoir fédérer tout le monde. Aujourd'hui, que la première dame, maman Olive Lembe, parraine le festival, nous avons le soutien des autorités provinciales, nationales, régionales et communales qui nous aident vraiment sur le projet. Le privé est là, les jeunes sont là, la population, nous l'espérons, en masse pendant les 3 jours. On espère que ce sera un élément en plus pour que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Et pour le bien-être de toute une population qui le mérite. Et donc, c'est un petit peu une goutte d'eau que nous espérons amener dans un verre qui pourrait se remplir au fur et à mesure du temps.
C'est une goutte d'eau qu'on amène dans un verre, mais donc 3 jours, c'est peu. Est-ce que vous projetez quelque chose en long terme? Est-ce que vous avez des projets d'avenir en ce qui concerne la paix dans le Nord Kivu?
Oui, je pense que la paix dans les Grands Lacs, c'est un grand sujet aujourd'hui, national, régional, international. La grosse ONG Peace One Day va organiser son jour international le 21 septembre à Goma. Nous organiserons sans doute, si c'est un succès d'ici la fin de la semaine, un deuxième festival dans un an. Donc c'est clair que ce n'est que le début d'une histoire que l'on espère positive au niveau de l'évolution de la paix dans la région.
Éric Delamotte, je vous remercie.
Merci à vous, bonne journée.
En bref, la rougeole continue à sévir au Katanga. La province enregistre depuis le début de cette année 1209 cas, dont 13 décès. Sur le terrain, les acteurs humanitaires prennent en charge des cas simples, tandis que des cas compliqués sont référés à l'hôpital général de référence de Sindwi, où la prise en charge coûte $100 américains, montant que les malades trouvent exorbitant, ce qui les pousse à recourir aux pratiques traditionnelles. Pour remédier à cette situation, la communauté humanitaire envisage une prise en charge gratuite des cas compliqués dans cet hôpital. L'UNICEF vient de lancer la campagne nationale de prévention de recrutement d'enfants soldats en RDC. Lancée mardi dernier, cette campagne coïncide avec le lancement de la chanson « Plus jamais de Kadogo » de l'artiste musicien Werason. Cette chanson va accompagner la campagne de sensibilisation. Enfin, processus électoral, 233 partis politiques ont signé lundi dernier au Palais du Peuple le code de bonne conduite pour le cycle électoral 2014-2016. Ainsi, les partis et groupements politiques candidats aux élections s'engagent notamment à respecter la Constitution, les lois de la République et l'autorité de l'État, les opinions des autres et à faire preuve de retenue, de modération et de sens de responsabilité dans leurs discours, attitudes et comportements.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Malgré le développement de nouvelles technologies de l'information, la radio est restée le média le plus populaire et le plus accessible. Affirmation du nouveau représentant de l'UNESCO en RDC, cependant, moins de femmes prennent la parole à la radio et les femmes journalistes sont moins nombreuses que les hommes. D'où la nécessité d'établir l'égalité des genres dans les médias et particulièrement à la radio, le média le plus populaire. Abdourahmane Diallo revient sur l'importance de cette journée ainsi que sur le programme d'action 2014 de son organisation, l'UNESCO en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Abdourahmane Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. La communauté internationale célèbre ce jeudi 13 février la journée mondiale de la radio. Pourquoi une journée mondiale de la radio?
Le 13 février de chaque année a été décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2012 comme la journée mondiale de la radio, et ça c'est suite à une décision de la 36e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue en novembre 2011. Donc c'est une journée qui a été choisie pour le 13 février, c'est pour commémorer le jour de la création de la radio des Nations Unies en 1946. Ça a été un 13 février. Donc l'objectif de cette journée, c'est de célébrer la radio en tant que média, mais aussi d'améliorer la coopération internationale entre les organismes de radiodiffusion. On se rend compte que malgré les progrès, le développement des technologies de l'information et de la communication, la radio reste le média le plus populaire. D'ailleurs, grâce aux technologies de l'information et de la communication, on utilise encore le média d'éthique pour utiliser la radio. Le média le plus populaire, le média qui atteint les plus grandes surfaces, on va dire, de population, qu'elle soit alphabétisée ou non, et dans les localités les plus reculées sur cette planète.
C'est le média le plus populaire, vous l'avez dit, monsieur le représentant, mais le thème de cette année est l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes à travers la radio. Alors, que fait l'UNESCO en RDC pour favoriser justement cette égalité des genres dans les radios locales et nationales en République démocratique du Congo?
Oui, avant de revenir peut-être sur la question sur la spécifique de la République démocratique du Congo, cette année donc, la thématique qui a été choisie, c'est la problématique de l'égalité entre les genres au niveau de la radio, parce que c'est sur la base de statistiques qu'il a été démontré qu'il y a une inégalité. Et on se rend compte qu'il y a moins de femmes au niveau des médias, moins de femmes prennent la parole au niveau des médias, moins de femmes occupent des postes de responsabilité au niveau des médias, même les reportages aussi, il y a des analyses qui ont été faites qui montrent que les reportages radio, moins d'un reportage radio sur quatre est produit par des femmes dans la plupart des régions, et moins d'un sur deux dans les régions où ce taux est le plus élevé. Par exemple, 38% en Afrique, en Amérique latine. Et l'UNESCO essaie, hein, en célébrant la radio, de montrer le rôle important que la radio peut jouer pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et par ce faire, donc, au travers de cette journée, on rappelle le rôle aussi que les femmes, des grandes pionnières, ont joué pendant le XXe siècle en tant que reporters, des grandes femmes qui ont joué, qui ont couvert des zones de conflit. Et ces femmes, donc, ont joué un rôle essentiel dans le développement de la radio. Nous invitons toutes les radios et les médias à rendre hommage aux journalistes femmes et productrices en cette journée en les mettant en avant.
Monsieur le représentant, justement, vous parlez de cette inégalité de genre, et en République démocratique du Congo, je crois que ce pays ne fait pas exception. Et alors, je reviens à ma question du départ. Que peut-on attendre de l'UNESCO pour la promotion des genres, bien sûr, dans le domaine de ces médias populaires qu'est la radio?
Oui, effectivement, donc la République démocratique du Congo n'est pas en marge de cette disparité, hein. Au niveau de l'UNESCO, bon, c'est que l'UNESCO, nous avons le mandat, l'un de nos mandats, c'est la communication et l'information. Donc, au travers des activités que nous avons avec les différents médias, les radios, notamment les radios communautaires, nous essayons de nous assurer que toutes les activités, notamment celles des formations des journalistes, des femmes et hommes des médias, on s'assure qu'il y a une équipe, qu'il y a vraiment une représentativité des femmes, et ça c'est presque une exigence au niveau des projets dans les cadres de formation, par exemple, c'est vraiment une exigence.
Votre programme d'activité pour cette année 2014 qui commence, notamment en ce qui concerne les médias et particulièrement la radio en République démocratique du Congo?
Oui, actuellement, en fait, on va commencer un nouveau cycle programmatique, celui de 2014-2015, c'est le nouveau biennium. En fait, on va poursuivre les activités qui ont été lancées au biennium précédent. Et donc, il y aura des activités où on va essayer d'appuyer donc le développement du secteur des médias ici en République démocratique du Congo. Ce sera des activités avec le ministère de la communication et l'information et les institutions nationales, notamment pour la législation en matière de la liberté de la presse et la révisitation des lois sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Donc, nous aurons organisé des ateliers sur l'évaluation du développement des médias en RDC, des ateliers sur la sécurité et la protection des journalistes, des ateliers sur l'égalité des genres dans les médias, et la lutte contre les violences sexuelles. C'est lié à la thématique de la journée mondiale de la radio d'aujourd'hui. Et des activités de qualification et de formation aussi adaptées aux besoins des professionnels des médias. Sinon, il y a un grand projet aussi que nous menons grâce à un financement de la coopération suédoise en appui aux radios locales. Et il y a 4 radios qui en bénéficient déjà. Il y en aura d'autres qui vont...
Quelles sont ces radios ?
Nous en avons une dans le Katanga, la radio Deo Gracias. La radio Kimvuka
Bandundu, oui.
Bandundu. Et puis dans le Bas-Congo, nous avons 2 radios, Radio Bangou de Kimpese et la radio communautaire de Mwanda.
Voilà.
D'ailleurs, ces radios, là, aujourd'hui, célèbrent la journée mondiale de la radio. Donc, c'est un appui, notamment grâce à l'introduction et l'utilisation d'éthique. C'est pour aider ces radios à s'autonomiser. Et ce programme va être élargi cette année avec d'autres radios sur le territoire national.
Et Monsieur Diallo, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Cette année, la célébration de la journée de la radio est placée sous le signe d'un double impératif pour les radiodiffuseurs du monde entier: promouvoir la voix des femmes sur leurs antennes et renforcer la présence des femmes dans leurs organisations. C'est du moins ce qu'affirme le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son message à l'occasion de cette journée. En RDC, elles sont journalistes, reporters, productrices, techniciennes qui travaillent à tous les niveaux de cette industrie pour garantir la liberté d'opinion, l'information et l'échange des idées sur les ondes. Jean-Pierre et Lali Coco s'est penché sur le cas de la Radio Capi pour montrer combien l'égalité des genres est une réalité au sein de cette radio, fruit du partenariat entre les Nations Unies et la Fondation Hirondelle. Suivez son reportage.
Égalité des sexes, genre, parité, émancipation, autant des termes en vogue. S'agissant de l'égalité des genres dans les médias, Radio Capi est une belle illustration. Tenez. Mireille Boukassa Mukendi travaille depuis 9 ans, reporter, présentatrice du journal Parlé et du magazine des Nations Unies, actuellement coordonnatrice et présentatrice du magazine Éco d'économie. Elle donne un sens au genre.
Mon équipe, par exemple, je suis la seule femme, je suis entourée de 3 hommes. Si on va dans le service du web, il y a 2 femmes, 7 messieurs. Quel service? J'ai pris encore plusieurs services. On va au Capi Service, il n'y a qu'une seule femme entourée des hommes, mais on les entend. On a l'impression que Radio Capi est remplie des femmes. C'est parce qu'on les entend, on sait palper leur travail. Elles s'imposent pas en tant que femmes, mais à travers leur travail. Et je me dis, c'est ça le genre, c'est ça le combat. Nous ne devons pas réclamer qu'il y ait 3, 2, 4 femmes, mais nous avons besoin des femmes, nous avons besoin de leur travail. Fait. On recourt aux femmes, pas parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles travaillent bien.
Même chose à l'animation. Thérèse Vassoubi est l'une des Amazones de la très suivie tranche matinale de Radio Capi. Elle y travaille depuis 9 ans, elle aussi. D'abord comme présentatrice, ensuite comme animatrice au programme. Un travail qu'elle assume avec beaucoup de passion. Pour Thérèse, le genre est respecté à Radio Capi.
Oui, à l'animation, en tout cas, on est majoritaire également dans les présentateurs pour les journaux. C'est pas seulement, ça peut se vérifier également dans les news, ça se vérifie au programme. Bon, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de reporters hommes, mais sinon, je pense que vraiment à Radio Capi, cet aspect-là sur le genre a été respecté. Les femmes qui sont là parce qu'elles ont, elles le méritent, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles bossent. Et non, on n'a pas de problème. On ne nous a pas favorisé. On est là parce que on s'est battu pour être où on est.
Quantité et qualité, oui, mais les difficultés ne manquent pas. Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du très célèbre Le Petit Prince, n'affirmait-il pas que l'homme se découvre devant l'obstacle? Ghislaine Nentobo, journaliste et reporter à Radio Capim-Bandaka, en est consciente. Pour elle, il faut s'imposer par le travail.
Bon, effectivement, ça n'a pas toujours été facile, mais il faut se battre. Surtout quand on est entouré d'hommes. D'abord, certaines autorités vous prennent moins au sérieux parce que vous êtes une femme. Ensuite, il vous arrive ou il arrive des fois que vous proposiez à la rédaction un sujet que vous jugez intéressant, mais pour les autres hommes, je veux dire ici, le sujet ne retient pas l'attention. Alors, on doit pousser des arguments vraiment solides pour défendre son sujet et convaincre les collègues. Je dirais que pour une femme journaliste, il faut s'y prendre plusieurs fois pour faire accepter un sujet.
Dans tous les cas de figure, à Radio Capi, les femmes journalistes se taillent bien une place au soleil, au sein d'une radio où les hommes semblent tout de même détenir le bâton des commandements. Car cela ne tienne, le genre est respecté en quantité et en qualité au sein de Radio Capi, fruit du partenariat entre les Nations Unies et la Fondation Hirondelle.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Dr Léon Kinoani, je suis marié, père de 4 enfants. Ma première fille étudie à Liège, en Belgique. Le deuxième étudie aux États-Unis, à l'Université de Virginie. J'ai étudié à l'Université de Kinshasa et après j'ai fait des études post-universitaires à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, à l'Institut régional de santé publique du Bénin et puis j'ai été dans plusieurs universités également avec porteur d'un certain nombre de certificats et j'ai également publié beaucoup d'études. Je suis en plus de cela épidémiologiste au sein de l'OMS où je m'occupe particulièrement de l'introduction de nouveaux vaccins ARDC. Je suis également chef de travaux d'université. Je donne des cours de santé publique et de médecine des catastrophes et de médecine du travail. Je suis aux Nations Unies depuis plusieurs années. J'ai à l'OMS depuis 1996, mais j'ai avant cela travaillé au sein du Haut Commissariat des Nations Unies comme coordonnateur médical pour les réfugiés burundais et les réfugiés rwandais. J'ai travaillé comme administrateur de projet à l'UNICEF Bukavu. J'ai été médecin inspecteur provincial au sud Kivu. J'ai été plusieurs fois médecin chef de zone à Kindu et à Bukavu, à Kasungu. Mes tâches quotidiennes se résument, je dirais, si je devais faire ce que nous appelons en management un chronogramme de Gantt. Bon, quotidiennement, c'est l'arrivée au bureau. Il faut regarder d'abord, checker les emails. C'est par là qu'on commence. Participer à la réunion chaque lundi, la réunion des experts en épidémie en RDC. Donc, je suis membre de ces petits groupes créés par le représentant de l'OMS. Et donc, nous faisons le tour d'horizon des épidémies qui sont à travers le pays pour donner l'appui nécessaire au gouvernement et au ministère de la Santé. Donc, les temps libres, j'aime gérer les temps libres à visiter ma mère d'abord. Ma vieille mère est présente dans la ville de Kinshasa. Je passe beaucoup de temps à la visiter, à écouter les petites blagues et puis j'ai fait une autopsie verbale de ce que ma naissance a été. Donc, j'essaye de suivre ce qu'elle me dit et je note par exemple que j'ai été victime d'une fracture à l'accouchement et donc j'étais content de le savoir et que j'ai passé un petit moment de boiterie, j'ai boité et puis à l'âge de 5 ans j'ai commencé à reprendre la marche normale. Donc la musique, j'aime bien la musique congolaise évidemment, j'aime beaucoup, mais ce qui me fascine plus c'est le sport. Or j'adore le combat, la boxe parce que j'ai pratiqué ça à l'université, donc j'aime beaucoup cela. Le repas, c'est surtout les menus congolais que moi j'aime beaucoup. Alors, par rapport au projet d'avenir, si on arrivait en RDC de constituer les mutuelles de santé, je crois que pour moi, ce serait le meilleur héritage auquel je puisse participer pour la santé de la population congolaise. Parce que les mutuelles de santé, peut-être qu'elles ne sont pas bien connues, mais je pense que avoir le contexte congolais d'un pays en voie de développement où l'argent entre en poche à des moments et il disparaît à d'autres moments, je crois que les mutuelles de santé, à mon avis, devaient constituer ma propre participation à la santé de la population congolaise et bien sûr maintenir mes enseignements si un jour je quitte les Nations Unies pour la retraite. Je crois que je vais beaucoup plus me confier à transmettre mes petites connaissances à la génération montante. Voilà, merci.
Thank you. magazine des Nations Unies, Question aux Nations Unies.
À Goma, les conditions carcérales et d'hébergement des pénitentiaires de la prison centrale de Mounzenze laissent à désirer. La prison affiche un état de délabrement avancé malgré le projet de réhabilitation entamé par le PNUD. Écoutez à ce sujet la question de notre consoeur de Digital Congo Goma, question posée lors de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier.
Des Digital Congo portant, ma question s'adresse à Madame Dupuy Développement, le PNUD. Parce que récemment, le PNUD a financé la construction ou la réhabilitation de la prison centrale de Goma, communément appelée Mounzenze. Et aujourd'hui, à peine quelques mois, quand on se rend à la prison centrale, la situation est, l'état est critique. Particulièrement, on voit que les installations sanitaires se déversent même dans la cour, les fosses septiques et tout. Est-ce que le PNUD est au courant de cette situation? Merci.
Voici la réponse de Mme Geneviève Dupnud, rapporteure du pilier développement des Nations Unies. Elle est complétée par M. Torres, chef de bureau de la MONUSCO à Goma.
Merci pour cette question. Il serait bon pour vous de vous adresser directement au bureau du PNUD à Goma. Parce qu'ils pourront, de ce côté-là, vous apporter toutes les précisions et détails nécessaires. Il y a là un chargé de communication et ce serait mieux que vous vous adressiez à eux directement.
Rapidement, juste pour ajuster que, effectivement, la situation à la prison centrale de Goma est inquiétante. Mais au-delà du travail de réhabilitation qui est fait, il ne faut pas perdre de vue le fait que la responsabilité de la maintenance de la prison échoit au gouvernement. Et c'est quelque chose qui nous inquiète énormément à la MONUSCO. Nous faisons un suivi de chaque jour sur la situation à la prison de Goma. Et c'est quelque chose que nous avons constamment rappelé à l'attention du gouvernement, non seulement provincial, mais au niveau central à travers nos collègues. Il y a des problèmes, pas seulement de maintenance, d'hygiène, d'assainissement, mais aussi des problèmes de nourriture pour les prisonniers. C'est quelque chose qui, comme vous avez totalement raison, quelque chose qui est fort inquiétant, mais je le répète, qui va au-delà de la responsabilité des agences qui ont facilité la réhabilitation de ce lieu d'incarcération. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous à retenir cette semaine, la poursuite des audiences à la CPI avec notamment l'affaire Bosco Ntaganda. Merci que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au micro, c'était Nicole Ngaka. Cette émission a été coordonnée et réalisée par Jean-Pierre Elali Ikoko. Merci encore. On se retrouve dimanche prochain pour une autre émission.